Bien. Bonjour mesdames, messieurs, nous voici dans une nouvelle salle pour examiner la manière dont la situation d'antagonisme liturgique dont nous avions observé la formation la semaine passée va se dérouler. Alors, je voudrais, nous étions restés, je pense, dans le cours du processus de sacralisation du feu rituel et du lien qui doit s'établir de plus en plus étroit, qui doit s'établir entre ce feu et le corps des sacrifiants. Et nous avions terminé, je pense, lors du cours précédent, en mettant l'accent sur l'importance à cet égard de la 16e strophe du Yasna 31, avec l'appellation Houdanou et l'apparition des divers cercles de l'appartenance sociale. Alors, nous pouvons continuer. Nous sommes dans un vaste mouvement où il est question de demander aux dieux de prendre la parole, de faire savoir aux sacrifiants certaines choses sous la forme de mantras ou d'enseignements, sasna, de soumettre ces dieux ainsi, c'est une variante de l'appel à parler, à une frasa, c'est-à-dire un interrogatoire qui porte partiellement sur le passé. C'est toujours la structure, c'est le topic de ce type de relation verbale que l'on peut avoir avec la divinité, tel qu'il se déroule d'habitude dans les textes iraniens, y compris les inscriptions achéménides. Il y a toujours ce balancement entre le paourvim, ce qui s'est passé d'abord dans le passé, et ce qui se passera plus tard dans le futur, l'aparam. Donc, une sorte de prise en compte de toute la ligne du temps. Alors, à partir de la 17e strophe, vous voyez que nous approchons de la fin du Yasna 31, en même temps que dans la strophe 31, nous trouvons qu'il n'est pas difficile, sauf le premier vers, parce qu'il est marqué aussi par une ellipse, nous avons un deuxième vers très significatif qui dit simplement c'est la fin de l'appel à prendre la parole adressé aux divinités, que le savant Vidvor parle Mrautu au savant Vidouché, et que celui qui n'est pas savant, que le non savant, l'ignorant si vous voulez, cesse de tromper, pas comme la Drouche, hein. C'est moins profond, mais c'est provoquer des illusions, que celui-là cesse de tromper et soit pour nous au Ahura Mazda, le Fradakshtar, le lanceur à la fronde de la bonne pensée. En fait, ce qui est réalisé dans ce deuxième vers de la strophe 17, c'est le transfert du savoir. Le transfert du savoir a eu lieu. La divinité a parlé, elle a fait connaître ses mantras et ses enseignements, et désormais le sacrifiant partage son savoir. C'est la constatation du transfert du savoir, donc le mouvement commencé à la 5e strophe, il est relativement long, est à présent réalisé. Et dans la strophe 19, dans la 19e strophe, il y a ici des difficultés que je ne veux pas, dans la 18e surtout, et au début de la 19e, dans cette 19e strophe, tout au moins est-il clair que l'appel est lancé aux divinités sous le nom de Ahura, qui est singulier ou pluriel, d'écouter désormais le sacrifiant qui est défini comme celui qui dispose à volonté de sa langue, donc celui qui maîtrise parfaitement sa langue, pour l'énoncé rectiligne de ses paroles. L'énoncé rectiligne de ses paroles. Désormais, donc, le savoir et la prise de parole sont transmis au récitant, qui tient sa légitimité du feu, puisqu'on voit ici réapparaître un parallèle de la formule de la strophe 3, mais remarquez qu'il ne s'agit plus du feu, simplement. Ce feu auquel on fait allusion dans cette formule qui réapparaît est désormais ton feu, toi, et il est Sukra. Ça, c'est le résultat de sa croissance progressive que nous avons accompagné dans les strophes précédentes, le feu est maintenant flamboyant. Il émet donc des flammes. Nous allons voir peut-être les deux dernières strophes de cet hymne 31. C'est avec ces strophes que se termine l'opération lignée. Hein, le feu est devenu le feu sacrificiel, apte à recevoir le sacrifice. Et vous constaterez dans la manière, n'est-ce pas, deux mots très importants qui font leur apparition ici. Hein, c'est le mot « sar », le mot « sar », l'union. Souvenez-vous, nous y avons fait allusion, mais sans encore préciser, c'est ici que les choses se précisent en réalité. Le mot « sar » qui désigne une union étroite avec quelque chose est l'objet de la demande des sacrifiants dans la troisième gatha, dans la gatha Spenta Mainyu. Cela change la perspective, car souvenez-vous, dans le Yasna 28, lors de l'énumération du nom des sacrifiants, c'était aussi un yana, c'était aussi une demande. Ils demandaient quelque chose, mais ce qu'ils demandaient était différent. C'était un secours, une aide-secours, hein, le ravdra. Enfin, ils demandaient le ravdra. Dans la troisième gatha, la perspective est différente. Ces sacrifiants, d'abord, ils ne sont pas mentionnés tout au début du texte, ils sont mentionnés plus ou moins au milieu, plus ou moins au plein cœur de l'action. Et ce qu'ils demandent, c'est le sar, l'union, à tel point que, selon un phénomène que nous pouvons observer relativement souvent, il y a des mots qui ne sont pas spécifiques à certaines gathas. Parfois, ils le sont, mais ils ne sont pas nécessairement spécifiques. Mais ce sont des mots que privilégient certaines gathas. C'est le cas de sar. Sar est un mot de la gatha Spenta Mainyu. C'est dans cette gatha que ce mot se fait le plus insistant, qu'il est répété et qu'il se trouve, au fond, représenter un schéma absolument essentiel de la demande sacrificielle. Et on voit que ce sar, maintenant que l'opération lignée est terminée, n'est-ce pas, elle est établie avec le monde divin. Il ne s'agit plus de demander un secours, le processus est avancé, hein. Et remarquez que les entités avec lesquelles l'union est établie, ce sont ces entités qui expriment les bienfaits d'immortalité, qui seront répétées quatre fois dans ce que nous avons appelé. Ils jalonnent littéralement à quatre reprises le moment sacrificiel, c'est-à-dire la phase ultime de la gatha que nous avons commentée l'an dernier, c'est-à-dire le moment de la libation Tauma d'abord dans l'Yasna 33, puis le moment d'offrande carnée dans le feu sacrificiel dans le Yasna 34. Donc le secours s'est transformé à présent en une union. Alors, vous voyez, le mot apparaît, c'est sa seule attestation dans la gatha Hunavaiti, parce que c'est l'abstraction à laquelle il se réfère qui est privilégié à partir du Yasna 31. Désormais, les sacrifiants ont établi le lien d'alliance, le vrata. Hein, le vrata est établi avec les divinités. Aussi, désormais, il s'agira de considérer celui que Ahura Mazda privilégie dans cette strophe comme celui qui est son allié, Urvata, c'est-à-dire celui qui a établi le lien du vrata avec lui. Et il est son allié par le Manyu, hein, par le Manyu. Donc l'apparence que le feu donne d'Ahura Mazda et par les actes que ce Manyu inspire. Donc c'est la réalisation du projet de l'alliance, hein, de l'alliance avec les divinités. Et je vous inviterai surtout la strophe à considérer dans la strophe suivante, n'est-ce pas, les signaux lumineux sont pour le généreux, bien sûr, qui les repère par l'effort de sa pensée. Donc, celui-ci flatte l'agencement avec pouvoir, parole et acte. Alors, voici la notation finale, le dernier vers de la gatha avec un mot essentiel, n'est-ce pas, c'est le mot, deux mots, vasishta et astish, pour définir le feu. Qu'il soit ton hôte, asti. Le feu est l'hôte, hein, et il est, cet hôte est Vasishta, très véhiculeur, véhiculeur des offrandes, hein, vieille image védique, hein, Vasishta, le feu est le plus véhiculeur. Voyez que la dernière différence non fondamentale avec le Yasna Haptankaiti est à présent éteinte. Avec Hudanu dans la strophe 16, avec Vasishta, très véhiculeur, dans cette strophe finale, ici 22, et avec Asti, hôte, les trois noms subsidiaires du feu ont été prononcés. Certes, son nom propre, son nom particulier, c'est Atar, n'est-ce pas ? Mais il y a toute une série d'autres désignations que le Yasna Haptankaiti, lui, mentionne, c'est-à-dire il est l'hôte, il est le véhiculeur, il est l'ami aussi, ami manque ici. Mais il est, par contre, Hudanu est un terme gathique qui ne figure pas dans le Yasna Haptankaiti. Finalement, sans que le nom du nom soit prononcé, les noms ont été prononcés. C'est pas... Alors, voilà. Alors nous pouvons peut-être, à partir de cette ultime remarque, le processus est devenu maintenant tout à fait identique à celui du Yasna Haptankaiti. Mais il y a deux différences fondamentales, celles-là inexplicables. Nous ne pouvons pas les résoudre. L'une est une différence de processus. Dans l'Yasna Haptankaiti, tout est accompli dès l'abord. Tout est un donné immédiat. Le lien avec les cercles sociaux, les noms du feu sont prononcés. Ça n'est pas un processus. C'est une sacralisation directe, immédiate du feu parfait du sacrifice. Je n'y verrai pas une différence, je vous l'ai déjà fait remarquer, je pense incidemment, ce n'est pas une différence globale qui oppose le Yasna Haptankaiti au Gata. Ce n'est pas ce clivage-là qui est en question. En fait, je pense que la présentation des choses sous la forme d'un processus complexe, élaboré, progressif, ben, c'est une caractéristique, non de toutes les Gatas, mais de la gata Ahunavaiti. Et dans une certaine mesure, c'est le principe explicatif de sa longueur relative. Si elle est plus longue que les autres, c'est parce qu'elle traduit un processus plus long et plus compliqué. Peut-être que la progressivité est un trait de la gata Ahunavaiti. Il faudra que nous cherchions à l'expliquer, mais c'est une chose qu'il faut tenir en compte. Ensuite, là, il n'y a rien à faire, nous sommes habitués à ce trait depuis longtemps. La caractéristique du Yasna Haptankaiti, par contre, là, c'est une véritable opposition entre haptahatik et gatik. C'est que le rite du Yasna Haptankaiti ignore l'antagonisme. Dans la langue des rhétoriciens américains, vous savez, on définira, Cherveux le ferait par exemple, on définit la rhétorique des Gata comme la rhétorique praise and blame, c'est-à-dire une rhétorique où l'éloge est nécessairement complémentaire, nécessairement pour complément immédiat, le blâme, hein, la critique. Donc toujours bien, ceci est bien, ceci est mal. C'est une rhétorique en permanence balancée entre l'éloge et la critique. Tandis que le Yasna Haptankaiti, il l'affirme lui-même, ne se soucie que de ce qui est positif. Il n'y a pas d'antagonisme dans l'Yasna Haptankaiti. Je vous ai fait remarquer que ce n'est pas nous qui disons ça. Le texte le dit lui-même. Hein? Le texte le dit lui-même en disant, moi, je salue, c'est le terme technique qu'il emploie, je salue tout ce qu'il y a de bien. On ne parlera pas de ce qu'il y a de mal, c'est sous-entendu. Hein? Nous ne sommes pas ceux qui faisons des critiques. Nous ne sommes pas des critiques. Nous ne sommes pas naïstar, comme dit le texte. Nous ne sommes pas critiques. Nous sommes uniquement ceux qui acceptons ce qu'il y a de bien. Ceux qui trouvent d'ailleurs des parallèles aussi dans la rhétorique de Rig Veda, qui parfois est balancée et parfois pas. Ce sont deux techniques rituelles différentes. Le point sur lequel je ne voudrais pas me prononcer, c'est celui de savoir si ces deux techniques sont conflictuelles ou non. Il y a des raisons, donc quelques petites raisons de penser qu'effectivement, il y a peut-être un peu de rivalité et de conflit entre les deux manières de procéder, comme entre la prose et la poésie, puisque le Yasna Habtankaiti est en prose et que les gathas sont métriques. Alors, voici les quelques réflexions que je voulais faire avec vous à ce sujet. Alors, avant de passer à autre chose, avant de passer au Daiva dans le Yasna 32, je vais résumer rapidement quelle a été dans cette longue partie de la Gatha Avunavaiti, le processus de sacralisation du feu. Il commence avec le Yasna 33, la strophe des Maïnyu, où le feu dont la présence se manifeste depuis la fin du Yasna 29, est identifié au Maïnyu d'Ahura Mazda et mis en rapport avec la triade du comportement rituel, la pensée, la parole et l'action. Deuxième chaînon, à partir du Yasna 30-11, et réalisation, conclure avec les bonnes divinités une alliance, un vrata, l'établissement d'un vrata. L'annonce de ce vrata est suivie dans la strophe 31-4 par une invitation, par l'invitation officielle, la racine zou, une zouiti, l'invitation officielle au corps entier des bonnes divinités, car le panthéon, comme nous l'avons observé, est rassemblé dans cette invitation. Nous avons les trois entités neutres principales, plus deux entités féminines. C'est un rassemblement relativement inusuel. L'ordre est souvent beaucoup plus dispersé. Donc le panthéon est rassemblé autour du feu par une invitation dans le but de réaliser un vrata. Avec la strophe 16, c'est le corps social qui se rassemble autour du feu. Les sacrifiants réunis autour du feu sont maintenant les représentants du corps social. C'est l'affirmation de leur représentativité sociale qui est affirmée dans la strophe 16. Enfin, à partir de la strophe 16 jusqu'à la strophe 19, transfert du savoir par le feu de la divinité au sacrifiant et transfert aussi de la prise de parole. Ce ne sont plus les dieux qui vont prononcer les mantras et les enseignements, mais les sacrifiants prennent leur lait. Alors, dans les deux dernières strophes, le Yasna 21-22, le vrata est réalisé, et il se réalise sous la forme d'un rapport d'hospitalité, d'un rapport d'hospitalité entre sacrifiant et divinité. Bien, voici la manière dont j'interpréterai le processus qui est relativement long. C'est l'entièreté du Yasna 31, mais précédé d'une bonne partie du Yasna 30, et aussi préparé même à la fin du Yasna 29, sous l'impulsion, rappelez-vous, de cette vache qui attend impatiemment, que son âme puisse partir sous l'action du feu rituel. Mais le processus a été long. Pourtant, tout n'est pas encore fini. Tout n'est pas fini. Il va falloir, avant de procéder aux offrandes, celle de Hauma d'abord, celle de Cher ensuite, il faudra sortir de la situation d'antagonisme qui s'est créée avec l'apparition des deux Maniou. C'est très propre, c'est très propre au rituel gathique, la situation de l'antagoniste. Alors, quels sont les personnages qu'il va falloir régler le destin. Je ne peux pas être plus précis parce que nous allons essayer de voir de quelle manière ça se présente. Eh bien, il porte le nom de Daiva. Ah, c'est très frappant, c'est une chose extrêmement frappante parce que c'est tout d'abord un gigantesque problème de grammaire comparée. Indépendamment de la compréhension que nous avons des textes, de ce texte-ci, indépendamment du phénomène religieux qui est peut-être sous-jacent, c'est un problème qui a frappé les premiers linguistes indo-européanistes parce que c'était quelque chose qui paraissait inacceptable, et d'ailleurs pendant des années ça n'a pas été accepté, que le T titre même de la divinité dans les langues indo-européennes est subi un traitement tel qu'il en finit par désigner les démons dans le monde iranien. Car effectivement, le mot Daiva, c'est l'indien Deva, le nom du dieu dans le Rig Veda, ne sera jamais autre chose. Vous connaissez bien sûr le latin Deus. Le latin Deus a ses parents dans les langues celtiques. Les plus vieux dialectes germaniques ont aussi leur forme propre. On retrouve le terme en baltoslave. Bref, un seul domaine indo-européen reste à l'écart, c'est le grec. Le grec ignore ce titre. Bon, ça, c'est un trait propre au grec. Le mot que l'on peut restituer en indo-européen, c'est le mot Deivo. Qui présente une petite particularité que je ne veux pas passer sous silence. Petite particularité, c'est qu'il est étrangement accentué. Étrangement accentué. Un terme de ce type-là, un nom en A avec degré plein de la racine, est normalement accentué sur la syllabe radicale. Ce n'est pas le cas. C'est la voyelle de dérivation qui porte l'accent. Ça peut avoir une importance. Éric Pirard, qui, vous le savez, vous le connaissez bien, est extrêmement sensible à ce genre de détails, a relevé que les mots qui portent ce type d'accent sont toujours des mots dont le sens comporte en soi une alternative. Le nom du jumeau, par exemple, Yama, vous le connaissez bien, il y a fait un colloque à son sujet il y a un an ou deux. Bien, Yama, le nom du jumeau, c'est un nom qui comporte une alternative inhérente. Hein. S'il y a un jumeau, il y en a nécessairement un autre. Bon. Eh bien, Yama est un terme de cette formation et lui aussi porte l'accent suffixal. C'est une particularité de ce genre de mot. Et c'est la raison pour laquelle Éric Pirard a souhaité que l'on donne comme explication fondamentale au nom de la divinité indo-européenne, non pas faire les lumineux d'après le nom du jour, hein, Diou, d'après la racine Diou qui indique la lumière diurne, la diffusion de la lumière diurne, mais l'autre racine Diou qui essaie de jouer au dé. Car avec la racine de jouer au dé, on arrive effectivement à un sens alternatif inhérent. Hein. C'est ce coup-là ou l'autre. Hein. D'où sa traduction dans sa traduction des Yashts avestiques. Il traduit les Daiva, non par démon, mais hasardeux. Les hasardeux. C'est une très belle traduction qui fait un peu rêver, mais je ne suis pas sûr que ce soit juste. Mais voilà pourquoi je tenais à commenter cette traduction, parce qu'elle est fondée en fait sur un phénomène d'accentuation. Alors, comment expliquer le phénomène de démonisation? Comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, le phénomène de démonisation du mot Daiva est à la base de toutes les explications que l'on a données des origines du mazdéisme. C'est Hauck, notre ancêtre, hein, notre plus lointain ancêtre, en 1862, dans son livre Les Essais, avait été extrêmement sensible. C'est lui qui a imposé l'idée que Daiva était bien l'équivalent, ce dont nous ne pouvons plus douter aujourd'hui, n'est-ce pas, du sanskrit Deva ou du latin Deus, car on l'avait mis en doute à cause justement du sens devenu péjoratif. Hauck, qui est un bon indianiste, il est indo-iraniste littéralement, voit bien que le phénomène est compliqué. Il constate que le phénomène est compliqué parce qu'en réalité, une inversion symétrique, presque symétrique, se produit dans le domaine indien. Les dieux de l'Inde, pourrait-on dire, sont les démons de l'Iran et les démons de l'Iran sont les dieux de l'Inde. En effet, Deva, le dieu en indien pour équivalent Daiva, qui signifie démon, bien il faudra peut-être faire des nuances. Par contre, le mot Asura, le démon indien, l'Asura, correspond à Ahura, qui est en tout cas une partie du nom de la grande divinité Ahura Mazda. Bon, donc il semble y avoir une inversion symétrique des sens positifs et négatifs entre les deux domaines indo-iraniens. Comment expliquer cela ? Bien, Hauck, encore une fois, peut-être plus précisément qu'on l'a fait à la suite, a très bien vu aussi que les deux phénomènes, les deux inversions, l'indienne et l'iranienne, n'étaient pas parfaitement symétriques. N'étaient pas parfaitement symétriques parce que les plus anciens livres du Rig Veda font encore de Asura un usage positif. Ce n'est qu'avec les hymnes que l'on peut juger les plus récents du Rig Veda que Asura a entièrement basculé du côté démoniaque. Donc il reste des traces effectives de Asura positif dans le domaine indien, alors qu'à l'époque de Hauck, il n'y avait pas de traces positives de Daiva en Iran. Donc ce n'est pas parfaitement symétrique. C'est la raison pour laquelle Hauck ne postule pas d'inversion immédiate. Pour lui, les choses se sont passées en deux temps. D'abord, les Iraniens, pour des raisons de conflit avec les Indiens, supposent des faits historiques, c'est évidemment conjectural, aurait favorisé la classe des dieux Ahura contre la classe des dieux Deva. Donc, Et ensuite, plus tard, un de leurs prêtres, appelé Zarathoustra, aurait pris conscience de l'unité divine et aurait magnifié un Ahura parmi d'autres, l'Ahura Mazda. Voyez ce que Hauck, au fond, voit dans la démonisation des Daivas une origine, mais indirecte au monothéisme mazdéen. Le fait que les deux inversions ne sont pas symétriques l'empêche de voir dans la condamnation des Devas simplement le rejet immédiat d'un certain type de polythéisme. Les choses, nous dit-il, ont dû être beaucoup plus compliquées. Oh, il y a des objections. Bien sûr, à ce type d'explication, par exemple, il n'est pas possible, lorsqu'on analyse les textes védiques, de constater une opposition claire entre deux classes de divinités. Asura ou Deva, ce ne sont pas deux classes particulières de divinités. Les mêmes divinités portent les deux titres. C'est une grande objection. Ensuite, pourquoi est-ce que Zarathoustra, pour affirmer son monothéisme mazdéen, se mettrait à rejeter les Daivas qui le sont en principe depuis longtemps et ne dirait rien de négatif contre les autres Ahura? C'est absolument illogique. Ce n'est donc pas une explication parfaite. Elle doit nécessairement être revue. L'autre explication, c'est simplement de voir dans le rejet des Daivas l'affirmation immédiate et directe du monothéisme. Tous les dieux autres que Mazda sont rejetés. Ils portaient toujours le titre de Daiva. Ça, c'est l'affirmation directe. C'est l'hypothèse de Lommel, formulé dès 1930, et dans la mesure où on tient encore à ce type d'histoire des origines mazdéennes, c'est certainement l'interprétation qui est aujourd'hui la plus répandue. Elle était acceptée, entre autres, il y a quelques années, par Johannin d'Arten. Il y a une difficulté aussi, qui fait que cette explication n'est pas reste conjecturale. La difficulté, bien sûr, c'est que si on s'imagine que un personnage historique particulier rejette le corps des dieux traditionnels pour affirmer l'existence d'un dieu unique, ben oui, mais alors que faire de l'inversion indienne ? Les deux phénomènes deviennent indépendants, ce qui est tout de même bizarre. Ben, on aimerait tout de même que l'inversion indienne et l'inversion iranienne soient corrélées. Voilà les deux difficultés avant lesquelles nous nous trouvons. Alors, je voudrais bien que... nous nous trouvons, nous, ici, devant l'Yasna 32. Le Yasna 32 est le plus ancien texte, c'est le plus ancien texte iranien connu, c'est le plus ancien texte mazdéen. Il nous donne donc l'image la plus ancienne du processus. Et il va consacrer le début, en tout cas, du Yasna 32 à faire en quelque sorte le procès des Daivas. Alors, nous allons examiner ça ensemble et voir ce que nous pouvons en tirer de plus précis. Je n'ai pas la prétention, je ne puis pas prétendre que ce texte soit aux origines du processus, mais il est certainement son témoin le plus ancien. Alors voyons comment les choses se présentent. L'opération de sacralisation du feu est terminée. Le sacrifice pourrait avoir lieu. Mais il faut d'abord trier ces acteurs. Qui va rendre le sacrifice ? Alors, c'est la situation de base à partir de laquelle nous allons partir. Il y a plusieurs difficultés, n'est-ce pas, à notre compréhension du Yasna 32, et je voudrais les signaler avant d'entamer l'opération. Les difficultés, c'est d'abord que c'est un texte qui traite de personnages condamnés, peut-être de personnages qu'on n'aime pas, que l'on rejette. Par conséquent, il tombe dans un certain argotisme. Il est très probable que la langue du Yasna 32 contienne certains aspects argotiques. Mais des aspects argotiques, ça signifie des déformations de mots et ça signifie pour nous des problèmes. Ces mots, nous ne sommes peut-être pas parfaitement en mesure de les examiner. Ce n'est pas l'opposition slavistique récente entre vocabulaire aourique qu'on emploie pour les bonnes divinités et vocabulaire dévique que l'on emploie pour les daivas. Ça n'est pas ça. C'est un phénomène un peu différent. Les mots semblent dérivés d'une autre manière. Shiautana, l'acte. Eh bien, le mauvais acte, ce sera shauman, un autre suffixe. Un mot qui signifie le reste, et on ne sait pas d'ailleurs très bien ce que doit entendre par là, je ferai une hypothèse. Raikna, ça, c'est le bon reste. Mais dans le texte, irikta. Irikta, c'est la même racine, mais la dérivation est différente. Le reste des daivas. On peut voir ainsi la force ish. Elle semble représentée par le mot ishan, la mauvaise ish, probablement. Donc, des phénomènes argotiques basés sur la dérivation. Et des mots qui, fatalement, ne sont attestés que dans ce texte. Alors, il y a aussi un certain nombre de termes, de notions, qui sont, sinon spécifiques, comme je le faisais remarquer, du moins privilégiés dans ce texte-ci. Ça, nous les verrons. Nous devons les examiner. Alors, d'abord, la première de ces notions spécifiques, c'est le mot daiva lui-même. L'idée même de daiva est spécifique. Car, effectivement, comment les choses se présentent-elles ? Du point de vue de l'avestique ancien, le mot ne figurera pas dans l'Yasna Habtankaiti, puisque le Yasna Habtankaiti ne parle pas de ce qui est négatif. Daiva n'est pas attesté. Bien, dans les gathas, eh bien, les gathas attestent 10 fois le mot. 10 fois le mot. Et comme très souvent, nous l'avons constaté, avec une certaine régularité. 2 fois dans chaque gatha d'une manière générale. Oui. 10 attestations, 2 dans chaque gatha comportant plusieurs chapitres. Les attestations qui restent, faites le compte, 6, 3 gathas, il nous manque 4 attestations. Eh bien, ces 4 attestations, ce sont celles que nous trouvons au début du Yasna 32. La Yasna 32, qui fait partie de la première gatha, la Hunavaiti, est un discours sur les daivas. Ce type de discours ne se trouve pas dans les autres gathas. Il est annoncé par le Yasna 36, qui connecte le problème des daivas à celui des deux Mainyu. Et puis, l'examen du problème des daivas se trouve dans les 5 premières strophes du Yasna 32. Or, clairement, les daivas qui sont évoqués dans ces 5 strophes, ce ne sont pas les démons de l'Avesta récent. Ce ne sont pas les mêmes personnalités. Bien sûr, le mot est le même. Mais il y a eu une sérieuse évolution. Alors, nous allons commencer par établir l'opposition. D'abord, les démons, les daivas de l'Avesta récent, ils grouillent. Ils sont très nombreux. Et d'ailleurs, on les tue par centaines. Ce sont des petits démons qui sont tout juste bons à être frappés et tués. Le grand tueur de Daiva, c'est le dieu Srausha. Mitra aussi, mais surtout Sraoucha. Sraoucha, nous allons voir que ce n'est pas un hasard, hein, parcourt le ciel du soir au matin et du matin au soir en frappant la tête des Daivas de son arme, en leur écrasant la tête dans les tours. Bon, ensuite, ces Daivas, ils ont un nom, ils sont nommés. Soit ce nom est l'expression d'une allégorie mauvaise, l'un pourrait s'appeler par exemple Akatash, celui qui fabrique par menuiserie de mauvaises choses, hein, l'allégorie de la mauvaise création, en quelque sorte. Ou bien, il porte un nom qui n'est pas directement interprétable, et nous savons, spécialement au séminaire, d'ailleurs avec Céline Redard, il y a un an, vu le cas d'un démon qui porte un nom qui rappelle celui du dieu Indra, du Rig Veda. Bon, il porte un nom, mais dans le cas où ce nom n'est pas significatif, où on ne peut pas lui donner un sens immédiat, on le situe immédiatement comme le rival d'une bonne entité. Ainsi, cet Indra est le rival de l'entité Asha. Son nom ne signifie pas cela d'aucune manière, mais c'est un rival direct. Ensuite, les Devas, ce sont bel et bien des démons. Ils sont mauvais sans équivoque. Et il est traditionnel dans le formulaire de l'Avesta récent de les définir par ce qui peut faire référence de la manière la plus claire, la plus dépourvue d'ambiguïté au monde du mal. Ils sont Dhruvant, c'est-à-dire qu'ils sont du côté de la Drudge, ils sont trompeurs, et ils sont Dushdar, à l'origine, comme nous l'avons vu, avare, c'est le sens dans vieil avestique, mais dans l'avestique récent, le sens est dégradé en quelque chose d'extrêmement commun et on pourrait traduire par malfaisant. Alors, cela n'est pas fait, comme nous allons voir, dans ce discours du début du Yasna 32. D'abord, ce que nous pouvons constater, et ceux d'entre vous qui étaient présents au séminaire de la semaine dernière, où Philippe Sonnen a très bien fait remarquer ça, en réalité, il y a une question de hiérarchie. Il y a une hiérarchie divine dans le Rig Veda. Bien sûr, tous les dieux, il n'y a pas deux catégories de dieux, Asura et Deva, lorsqu'Asura a encore un sens positif, bien sûr. Mais il y a une différence d'autorité, une différence de force. Certains dieux, ils sont parfaitement Deva comme tous les autres, mais ils ont quelque chose en plus. Ils ont quelque chose, et ça, c'est leur caractère d'Asura. Voilà, le dieu Deva, Mitra ou Varuna détiennent tout de même l'Asuradvam, la force de l'Asura. Hein. Donc, il y a un peu une hiérarchie de pouvoir. Hein. Certains dieux sont plus forts que d'autres. Et ce surcroît de force, c'est Asura qui le traduit. Or, voyez ici, les Daivas, qu'est-ce qui traduit leur rang hiérarchique inférieur? Si nous lisons la première strophe du Yasna 32, nous voyons qu'ils sont et se situent non pas comme des rivaux d'Ahura Mazda dans le monde divin, mais comme des sacrifiants parmi les autres. Ils prennent rang parmi les cercles de l'appartenance sociale et se proposent finalement d'offrir le sacrifice à Ahura Mazda. Remarquez, bon, il figure à la suite des cercles de l'appartenance sociale, la famille, le clan, la tribu, et il demande à bénéficier de la joie que donne le sacrifice à Ahura Mazda. Et ils emploient la même formule que les autres, ils disent nous voulons être tes fumées. Ça, ce nom de fumée reviendra deux fois dans le texte, c'est-à-dire qu'ils sont ceux qui se manifestent par le feu du sacrifice. Il ne s'agit pas le mot douta ne signifie pas messager, comme Helmut Humbart l'a présent fort bien établi. C'est en fait le messager, oui, mais un messager bien spécifique, le messager du feu. Et le messager du feu, c'est sa fumée. Hein. Akni douta, dit le Rig Veda. Hein. Le messager du feu, c'est-à-dire sa fumée. Donc, ils sont réunis autour du feu sacrificiel, ils font la même demande. Par contre, ben, ils ont bien rang divin, c'est pour cela qu'ils ne sont pas non plus entièrement au rang des humains, ils figurent, à eux aussi, on rend le sacrifice. Et quelqu'un qui leur rend le sacrifice et qui est peut-être défini par grand, si c'est bien ce mot-là, leur sacrifie. Voyez la strophe 3, premier hémistiche du deuxième vers, celui qui vous offre déjà le sacrifice, si mâche veut dire déjà d'emblée, ou bien le grand, mais alors qui est le grand, ça c'est un problème, le grand qui vous offre le sacrifice. Donc, à la fois sacrifiant et objet du sacrifice. Ce sont donc des dieux qui sacrifient à une autre divinité, ce qui traduit leur rang inférieur dans la hiérarchie, et ils sont tout de même les objets du sacrifice, ce qui garantit leur rang divin. Alors, les épithètes péjoratives, ruvant ou tushda, ne leur sont pas directement appliquées. Aucune épithète péjorative ne leur est appliquée. Il y a bien sûr accointance, hein, nous allons le voir. Il y a accointance avec les forces mauvaises, mais en vertu d'un certain processus. Alors, ce qui est tout de même significatif, c'est que la critique adressée aux Daiva, leur condamnation, elle se déroule depuis le troisième vers de la strophe 2 jusqu'à la fin de la strophe 5. Après, on passe à autre chose. Eh bien, ce sont des paroles d'Ahura Mazda. Ce n'est pas le sacrifiant qui fait le procès des Daiva. C'est Ahura Mazda lui-même. Le sacrifiant ne dira rien. Il laisse parler Ahura Mazda. Alors, je vous laisse peut-être imaginer. Y a-t-il là une certaine réserve? Y a-t-il peut-être aussi un tabou, hein, un tabou. Ce sont tout de même des êtres divins. Est-il prudent de les critiquer nous-mêmes? Faut-il laisser la critique à Ahura Mazda? Cela, c'est la question que nous pouvons nous poser à ce sujet. Mais je voudrais vous faire remarquer que la critique est tout de même radicale dans la manière dont Ahura Mazda s'exprime. Si nous voyons bien la strophe, si nous lisons bien la strophe 3, elle pose une petite difficulté qui est formelle, c'est le problème du mot chitra que j'ai déjà commenté, parce que la question est toujours de savoir en vertu de quel étrange processus grammatical, n'est-ce pas, un adjectif a-t-il pu prendre le sens d'un nom abstrait. Le chitra, c'est le signal lumineux, c'est très certainement le mot, un adjectif substantifié qui s'est substitué à l'indien ketu, qui effectivement n'existe pas dans l'équivalent n'existe pas dans les textes vieillavestiques, le ketu, c'est-à-dire le signal lumineux qui apparaît à l'aurore, eh bien, ou bien le signal lumineux que le feu fait dans la nuit. Eh bien, donc, vous, les Devas, dit Ahura Mazda, vous êtes le signal lumineux qui vient de la mauvaise pensée, donc une mauvaise entité. Or, nous voyons que ces mauvaises entités, ces mauvais éléments qui vont être assemblés ici pour rejeter l'intention sacrificielle des Daivas, signifie qu'Ahura Mazda refuse. Refuse le sacrifice des Daivas au nom de ces mauvaises notions, ce sont très exactement les antonymes de celles qui se trouvent dans la strophe 2. Car Ahura Mazda, avant qu'il parle, deux vers y sont consacrés, on nous dit qu'il est uni aux bonnes entités, ce sont d'ailleurs les entités qui ont été rassemblées dans l'invitation, Yasna 31.4, la bonne pensée. La mauvaise pensée dans la strophe 3. Achat, deuxième hémistiche. Vous êtes la manifestation de la Drouch. La Drouch, achat, Drouch, tromperie, ordre du monde. Et deux, la pairimati, la négligence. C'est très exactement l'inverse de armaïti, ce que Ahura Mazda choisit. Donc, il n'y a pas d'agrégation rituelle. C'est ce que traduit le verbe varmaïdi. Quand Ahura Mazda, s'adressant à tous ceux qui ont l'intention de lui sacrifier, qui sont mentionnés dans l'astrophin, dit « Nous choisissons votre bonne armaïti ».« Choisissons votre bonne armaïti », ça signifie qu'il accepte le sacrifice. Hein, il semble accepter le sacrifice. Et qu'est-ce que cet armaïti soit à nous, le fravarané, qui est aussi une déclaration d'agréation sacrificielle, mais inverse, c'est l'agréation de la divinité par le prêtre. Hein, nous l'avons lu ensemble, nous l'avons vu, dire « fravarané, je choisis de rendre le sacrifice à Wamazda », c'est l'annonce officielle par le prêtre officiant, par le haoutar, le zaoutar probablement, de la divinité à qui le sacrifice est consacré. Je choisis de rendre la cible sacrificielle est officiellement désignée. Bien. Alors, Ahura Mazda va répondre à peu près ce qui est ici. C'est une forme, il s'exprimera seulement à la première personne du singulier. Il va lui aussi faire son choix sacrificiel. Ce choix sacrificiel, c'est dire j'accepte. Hein. C'est dire je choisis Armaïti, votre Armaïti. C'est-à-dire, je vous choisis vous. Pourquoi Armaïti? C'est une autre question. J'ai une explication. Je pense qu'il y a un passage de l'Avesta récent qui nous permet de comprendre avec une certaine précision ceci. N'oubliez pas qu'Armaïti est aussi la Terre. Hein? Et dans ce passage de l'Avesta récent, dit ceci, voici, nous te sacrifions, Ahura Mazda, à cet endroit-ci. Hein? À cet endroit-ci. C'est le mot le plus neutre pour désigner l'endroit, Maitana, l'endroit où nous nous trouvons. Et puis, le texte se développe de telle sorte qu'il dit, mais cet endroit-ci, eh bien, il n'est rien d'autre qu'Armaïti. La terre est évidemment l'emplacement du sacrifice. Je crois que c'est une désignation parmi d'autres de l'ère sacrificielle. Or, Ahura Mazda, en choisissant, s'exprimant de manière déviée, en agréant son sacrifiant, en prononçant le nom d'Armaïti, eh bien, il choisit une ère sacrificielle plutôt qu'une autre. C'est l'ère sacrificielle des cercles de l'appartenance sociale qui est choisie, et la strophe 3 va nous apprendre que les Daïvas ne sont pas agréés. Hein. Ils sont mis en rapport avec les forces antagonistes de celles qui sont exprimées dans la strophe 2. Hein. Et on trouvera donc une véritable situation d'antonymie. Hein, bonne pensée, mauvaise pensée, achat, agencement du monde, désordre du monde, la droge, la tromperie, et la juste pensée, la pensée adaptée qui devient la négligence, la pensée qui fait un tour, littéralement. Pas grimatis, c'est évité, hein, c'est la pensée détournée. Bien, alors, donc, voici comment la condamnation des Dava se produit. On ne dira pas qu'ils sont Drugvant, on ne dira pas qu'ils sont Doujda, mais on les mettra d'une manière ou d'une autre en rapport avec de mauvaises entités. Enfin, une différence aussi, ils ne sont jamais nommés. Ça, c'est la troisième différence. Il s'agit toujours d'un corps anonyme et collectif. Toujours. Toujours au pluriel. Ils n'ont pas de nom. Tout ce que nous savons d'eux, par ailleurs, n'est-ce pas, portent les traces presque permanentes aussi d'une fixation formulaire. La première, elle avait été perçue en 1953 par Duchesne d'Imain et a fait l'objet d'un article d'Émile Benveniste en 1967, n'est-ce pas ? C'est dans la discussion de Hauck et de Lommel sur la condamnation des Daïvas. C'était un fait qui était passé inaperçu et qui pourtant complique la donne. C'est que le mot Daïva est très fréquemment coordonné à Machia. Très fréquemment coordonné à Machia. C'est l'Indien Martia. Deva, d'ailleurs, est lui aussi fréquemment coordonné à Martia. Les dieux et les hommes. Les Daïva et les hommes. Oui, mais comment faut-il concevoir cette expression dès lors que Daïva ne signifie plus Dieu, mais démon ? C'est une sérieuse difficulté, car c'est une articulation extrêmement fréquente dans les langues indo-européennes, comme Duchesne d'Hymens et Benveniste le voient très bien. Dii hominesque en latin, les dieux et les hommes. C'est une opposition, c'est mettre en opposition ou en complémentarité la nature divine et la nature humaine. Grec, theoi anthropoite, theoi te anthropoi, les dieux et les hommes, même si les mots ne sont pas les mêmes pour désigner les dieux et les hommes. Deva martia, fréquent dans le Rig Veda, les dieux et les hommes, ça va. Comment considérer Daiva Machia dans l'Avesta, comment dire? Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a deux manières d'envisager les choses. Duchesne d'Hymens et Benveniste l'ont fait de manière opposée, d'ailleurs. C'est dire, bon, c'est que une fois que dans le, c'est que dans la dans la dans le dans, en vieille avestique, dans les gathas, lorsqu'on parle des dieux et des hommes, lorsqu'on parle des daiva et des machia, il reste quelque chose de divin dans le terme daiva, n'est-ce pas? C'est quelque chose, c'est parce que ces divinités sont encore, pour certains, des divinités que l'expression est possible. Mais alors, en avestique récent, où la coordination est-elle aussi attestée? Comment considérer les choses? Il n'y a plus qu'une explication, et celle-là, vous ne l'aimerez pas du tout, comme je ne l'aime pas non plus, c'est dire, c'est une aberration. On a réemployé la formule au mépris de ce qu'elle pouvait signifier primitivement. Et c'est une expression qui n'a absolument plus aucun sens, mais on l'utilise parce qu'elle est formulaire. C'est une explication qui ne peut pas convenir. On voit bien que l'explication doit être différente. Alors, prenons les choses. Philippe Suenen l'a fait d'ailleurs au séminaire de la semaine dernière. Il y a trois mots pour désigner l'homme en tant que mortel, en vieille avestique. Il y a effectivement le mortel. Il est indifférencié, ni bon ni mauvais. C'est simplement la nature mortelle qui compte. Ce mot-là, c'est Martha. Martha en indien, Macha. Macha dans les textes. Excusez-moi. C'est Martha. Martha. La transformation d'RT en che n'est pas faite. Martha, indien Martha, c'est quasi le même mot sans la petite consonne d'appui. Ce mot-là n'est jamais associé à Daiva, et il est indifférencié. Ceux qui sont désignés ainsi ne sont a priori ni bons ni mauvais, exactement comme le terme général pour dire homme. Et puis, il y a deux mots, Machia, que nous connaissons, et un autre, Marutan, qui est utilisé, on le voit bien, surtout, il n'y a pas de différence entre les deux mots du point de vue du sens. Ces deux mots-là sont associés à Daiva. Et on choisit l'un ou l'autre en fonction du besoin métrique. Suite au phénomène de déclinaison, Marutan comporte en général une syllabe de plus que Machia. Alors, c'est une question de licence métrique, de choisir un mot plutôt que l'autre. Mais ces deux termes qui désignent l'homme en tant que mortel sont, eux, toujours associés à Daiva. Alors, je crois qu'il n'y a dans une... on voit que c'est une situation véritablement acquise et traditionnelle dès les gathas. 10 attestations du mot Daiva, n'est-ce pas? Eh bien, deux seulement ne se trouvent pas en interaction avec le nom de l'homme. C'est toujours les dieux et les hommes quand il s'agit des daivas. Toujours, toujours, toujours. Les daivas et les machias. Il y a toujours interaction, machia ou martan, c'est un des deux. De même d'ailleurs que le mot machia, il est utilisé indépendamment de daiva lui aussi que deux fois, c'est-à-dire pour une infime minorité de ces attestations. Alors, dans les textes vieille avestique, Pirard et moi avions proposé une solution qui a été adoptée par Umbach, c'est de supposer que ce que nous avions, c'était une contamination. Daïva étant devenu péjoratif, étant un terme déchu, il avait entraîné dans sa déchéance le mot machia à l'intérieur d'une formule traditionnelle de la rhétorique indo-iranienne. Je crois aujourd'hui que c'est plus profond que cela. C'est toute l'expression dieux et hommes, Deva Martia, qui a basculé dans le caractère péjoratif. Toute l'expression est délégata péjoratif. Ce qui montre que nous ne sommes pas au début d'une tradition, mais nous sommes à l'intérieur d'une tradition déjà bien ancrée. C'est un phénomène qui, pour l'auteur des Gatha, est un fait acquis. Un fait acquis depuis longtemps. Là, au moins, on sent que les Gatha se trouvent, à certains égards, au début d'une tradition. Mais ici, nous sommes au cœur d'une tradition. C'est un système acquis. Et un système acquis depuis un temps indéterminé. C'est le plus ancien texte que nous avons. Nous pouvons lui mettre en regard, nous ne pouvons pas établir sa généalogie, c'est impossible, il est au début de la généalogie. Mais nous avons un phénomène acquis. Alors, il y a aussi, au contraire, quelque chose d'intéressant, parce que c'est aussi un trait formulaire. Regardez bien le début des paroles d'Ahura Mazda adressées aux Daïva, il s'adresse à eux. Daiva Wispanko, tous les Daivas, vous, tous les Daivas. Ça n'a l'air de rien, le mot Vispa, tout. Et il nous paraît bien naturel. Il paraît bien naturel que si l'on parle à des dieux ou à des démons, enfin des personnalités surnaturelles, on leur applique la désignation de la totalité, tout. Oui, mais ce n'est pas si naturel que cela dans le contexte indo-iranien. Il ne faut pas oublier que le Rig Veda mentionne une classe de divinités qui a un nombre respectable d'hymnes comme étant les Vijvedeva. Tous les dieux. Nominatif pluriel ici. C'est une catégorie divine où le nom de la divinité, Deva, est nécessairement accompagné de la notation « tout ». Alors, je vous invite, j'ai toujours regretté considérablement que les iranologues ne réfléchissent pas plus sur les faits védiques. Il est extrêmement éclairant de lire ce que Louis Renou, l'indianiste Louis Renou, en 1958, c'est pas hier, hein, en 1958, dans son introduction aux hymnes au Vijvedeva, des études védiques et paninéennes, c'est le quatrième volume, faisait remarquer. C'est qu'il y a deux manières dans le Rig Veda d'envisager les Vijvedeva. Ou bien il s'agit d'un groupe soumis à énumération. C'est un tel, un tel, un tel. Et on passe effectivement un certain nombre de dieux. Hein, on les passe après l'autre, de strophe en strophe, n'est-ce pas ? C'est une sorte d'appel de diverses divinités. On y trouve des dieux extrêmement importants, Indra, Mitra, Varuna, mais on trouve aussi un nombre considérable de petites divinités mineures, ce qui a son importance. Donc, c'est un groupe énumératif. Mais ça peut être aussi un groupe global. C'est-à-dire un groupe indistinct, ou justement anonyme. Il constitue en soi un élément du monde divin. Et on peut, à cet égard, je vous lis une très belle remarque, page 7, sur laquelle Louis Renou a montre que ce caractère énumératif ou ce caractère global est en même temps parfois indistinct. Il nous dit, voilà, nous aboutissons donc à ce résultat, dit-il, que des hymnes à caractère fortement énumératif qui font se succéder des allusions en diverses divinités, strophe après strophe, hein, et l'une de ces divinités étant même les Vijvedeva. Donc ils sont à la fois, ceux-ci sont donc à la fois la partie et le tout. Hein. Ils désignent l'ensemble des divinités dont le nom est énuméré, mais à l'intérieur de l'énumération, on les retrouve eux-mêmes en tant que groupe, hein, ce qui crée une étrange situation. Ils sont à la fois la partie et le tout. Nous devrons tenir compte de ceci. Mais je reviens aussi à une remarque extrêmement intéressante de Renoux. C'est la présence dans ce corps des Vishvedeva d'un très grand nombre de divinités mineures. Et nous retombons ici sur le problème de la hiérarchie, n'est-ce pas ? Problème de la hiérarchie, ce qui suggère une très belle remarque et que nous pourrons mériter, qui termine l'exposé de Renoux introductif aux hymnes de, à ce type d'hymne du Rig Veda. Et il dira à propos des Rig Veda, de Vishvedeva, ceci, c'est un groupe à la fois singulier et global, énumératif et global, hein, un groupe à la fois singulier et global, qui condense et parfois dégrade le niveau commun de la dignité divine. Dégrade. Hein, c'est une chose qui peut nous intéresser, nous, dans le contexte du mazdéisme. Et nous reprendrons l'examen de certaines notions, si vous permettez, à ce propos, la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention. Merci.